Et voilà, on se retrouve pour la rentrée, nouvelle saison sur Radio Grand Air. Évidemment, ils ont bien sûr répondu à l'appel. L'appel de la radio, c'est avec l'équipe de Jean-Claude Dugros. Bonjour Jean-Claude. Hein.
Bonjour.
La culture occitane de retour avec Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène.
Adieu à toutes.
Et Sylvain, on l'avait promis qu'on le reverrait ici à la radio. Eh bien, il a fait le déplacement pour nous. Sylvain Roux qui est avec nous. Bonjour Sylvain.
Et bonjour à tout le monde.
Et merci de ta présence.
Voilà, nouvelle émission mensuelle, on voilà. Le rappelle, sur les ondes de Radio Grand Air.
Et là, on va l'appeler un peu émission spéciale, puisqu'on a consacré la majorité de l'émission à la sortie d'un livre, un nouveau livre, donc, qui s'appelle « Chansons traditionnelles du Périgord », et qui est une réédition, mais bien, bien augmentée et bien améliorée, d'un premier texte, d'un premier livre qui est sorti en 1902. Voilà, et donc on va en parler, Sylvain il est là pour ça.
Et ça c'est un événement historique,
oui,
on peut dire,
vrai,
parce que ce sera une version complète.
Oui.
Et on a peu de documents de ce type.
C'est vrai. Sylvain, tu vas travailler aujourd'hui.
Oui, oui, je suis là pour répondre aux questions.
Voilà. Et... Ben, pour ne pas changer la tradition, on va commencer par notre éphéméride, notre mois de septembre. C'est la rentrée, alors aujourd'hui vous allez échapper à tous les textes occitans d'habitude que je lisais sur la rentrée scolaire, mais bon, vous ne perdez rien pour attendre, parce que peut-être que le mois prochain...
Non, en octobre ce sera trop tard, on va passer aux châtaignes.
Autrefois, la rentrée c'était en octobre.
C'est vrai.
Voilà, donc le mois de septembre, éphéméride, bon, ben voilà, quelques textes... qui nous dit « 20 septembre, la fenêtre faille estendre. 20 septembre fait étendre les femmes. » Voilà, c'est très agréable. « Pour les hommes, cependant, le vin est bon en septembre, meilleur en décembre. » Bon en septembre, meilleur en décembre. Mais il est des informateurs pour affirmer que ce proverbe ne parle pas du vin et que sa forme authentique est « bon en septembre, meilleur en décembre. » Le temps que l'on trouve bon en septembre semblerait encore meilleur en décembre. Est-ce que le plus mauvais temps de septembre ne serait pas pourtant un beau temps en décembre, nous dit Michel Chadeuil, qui a écrit l'éphéméride. Puisque nous sommes à la météo du mois, les proverbes nous en précisent les tendances. Septembre emporte le pont ou eissurise la foum. Septembre emporte le pont ou tarit la source. C'est tout l'un ou tout l'autre. C'est ce que dit aussi le proverbe suivant. Septembre emplit cerveau maïpou ou bétou zouvouille de tout. Septembre emplit la mare et le puits ou bien vide le tout. C'est bien le cas, hein, puisque actuellement, on est plutôt dans les puits vides. Si l'on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, en ce qui concerne la pluie ou la sécheresse, on est certain que les températures vont baisser. En septembre, pau à pau, la chaleur quitte l'oustau. En septembre, peu à peu, la chaleur quitte la demeure. Voilà, et donc, bien sûr, le mois de septembre, c'est le mois des noix, c'est le mois des vignes. Soyons comme toujours attentifs aux signes, aux présages qui nous annoncent le temps qu'il fera dans les mois qui viennent. Faille des cacao en septembre, hiver à toute fendre. Profusion de noix en septembre, hiver à tout fendre. Je crois que cette année, il n'y a pas beaucoup de noix. Nougier d'espouliat avant que chabe l'estiu, hiver fraîche et abourriou. Noyer dépouillé avant que l'été ne s'achève, hiver froid et précoce. Voilà, c'est ça, c'est nos anciens qui avaient beaucoup le sens de l'observation. Août septembre que bagno fa ufla la chastagno, la castagno. Août sec, septembre qui baigne font grossir la châtaigne. Voilà, et comme ça on a beaucoup de proverbes. Et alors je voudrais m'arrêter sur le 8 septembre qui est un jour de Notre-Dame. Donc c'est la Notre-Dame de septembre, c'est le 8 septembre. Et c'est le jour de la naissance de Frédéric Mistral. Et alors Frédéric Mistral est né... Le jour de Notre-Dame, sa mère voulait l'appeler Nostradamus. Nostradamus, Notre-Dame.
Mais échappé belle alors.
Voilà, mais alors bien entendu, le père et puis peut-être d'autres membres de la famille, on dit quand même... Parce qu'en plus de ça, on disait que le fameux Nostradamus, donc, qu'on connaît bien, aurait été un lointain parent de Mistral. Et donc voilà, c'était une raison supplémentaire. Et puis non, finalement... les jeunes de la maison ont dit quand même ce serait difficile à porter, donc ils l'ont appelé Frédéric, parce que Frédéric c'était le nom aussi d'un cousin qui venait de mourir de chagrin d'amour pour une jeune fille, etc., etc. Voilà, donc Frédéric quand même ça allait, et puis la suite a prouvé qu'il valait mieux être mieux l'appeler Frédéric que l'appeler Nostradamus Mistral. Voilà, et eh bien écoute, voilà, donc on a notre éphéméride de septembre. Voilà, donc on va passer à notre numéro spécial donc, sur les chansons traditionnelles du Périgord. On va faire travailler Sylvain, qui est notre musicien. On va peut-être rappeler l'historique. D'ailleurs, c'est toi qui es à l'origine de cette réédition, si tu veux peut-être le dire.
Ben oui, oui. Ce livre non édité après la guerre de 14-18, donc il faut d'abord dire Casse-Chaminade, parce qu'on parle
oui, c'est
du
vrai.
Livre, mais
c'est
quand vrai. Même les deux abbés, Emmanuel Casse et Eugène Chaminade, vers la fin du 19e siècle, début 20e, ont fait du collectage en Dordogne de chansons traditionnelles occitanes. En 1902, donc, comme tu l'as dit, ils ont publié un premier livre, il y avait 200 chansons à peu près. Et donc après la guerre, ils préparent une nouvelle édition. Plus de 400 chansons sont prêtes, mais en fait, ils meurent tous les deux à un mois près, en 1922. Et les manuscrits vont rester dans les archives, dans la poussière des archives, et le temps voilà, fera son œuvre. Ce livre restera comme ça, un peu bloqué sur les étagères. Donc je connaissais l'existence de ce livre depuis pas mal d'années. On en parlait notamment avec Thierry Boisvert. Il a été en ligne à une époque. Il a disparu, je ne sais pas pourquoi. Et il y a quoi, 4-5 ans, en faisant des recherches sur Internet, je tapais Casse-Chaminade, etc. Je tombe sur un site, la EPEM, Association d'études et promotions pour les musiques traditionnelles du pays de France, où je vois qu'ils avaient mis en ligne, ils avaient numérisé tout le Casse-Chaminade, y compris la partie auquel on n'avait plus accès, quoi. Et là, je me suis dit, oulala, si eux, ils l'ont, il faut faire quelque chose, quoi. Et donc, j'ai commencé à chercher, je me suis aperçu que ce livre, il était toujours bien conservé à la médiathèque de Périgueux. Et là, je me suis dit, c'était 2022, donc un siècle pile poil après le décès des deux abbés, c'est le moment, il faut aller demander à Nouvelhume et Loubournada ou Périgord s'ils veulent bien qu'on publie enfin ce trésor musical du Périgord. Voilà, ça a pris le temps, on s'y est mis. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, donc avec Jean-Claude ici présent, Françoise Dudognon qui aurait dû être là mais qui n'est pas là, qui a fait la traduction en français. Jean-Claude s'occupait de la normalisation de la langue, moi je me suis occupé de la partition. Et après on a Philippe Christophe qui a fait la coordination du projet, Jean-Louis Lévesque qui travaille sur la langue, etc., la mise en page, et Nicolas Peuch qui a fait la maquette et qui va travailler aussi sur les fichiers sons que j'ai réalisés, parce que si les gens ne connaissent pas la musique, avec ce livre, ils pourront écouter les fichiers. Et ça, c'est important, parce que souvent, dans la musique traditionnelle, c'est l'oralité qui prime. Et là, on a accès, sans la partition écrite...
C'est-à-dire, voilà, les gens qui ne lisent pas la partition.
Exactement. Voilà, il y a un QR code qui va renvoyer sur le site de Nouvelhume. Et on aura toutes les chansons. On pourra l'écouter, comme ça, jouer à la flûte. Voilà. Voilà, donc ça, c'est... Et ça va sortir, on va dire, allez, on ne prend pas de risque, début octobre, puisque la présentation officielle aura lieu le 18 octobre aux AISI. On suppose que tout va aller bien, on croise les doigts. Là, on est en fin de correction du dernier chapitre, il y en a 7. Voilà, et c'est un livre qui va faire 500 pages, voilà, qu'on pourra commander, évidemment, chez Nouvelhume et Loubourna. Voilà.
Alors, je disais que c'était exceptionnel, à la fois sur le plan historique, parce que c'est quand même incroyable d'avoir suivi comme ça ces archives sans qu'elles disparaissent jusqu'à présent, mais aussi sur le plan culturel, parce qu'il y a différentes versions qui ont toutes été, je crois, toutes compilées, là, et qui témoignent d'une quand même très grande diversité de dialectes, d'adaptations de ces airs qui sont sûrement, pour certains, très très anciens.
Exactement. Et alors là, la chose qu'ils ont rajoutée dans cette édition, qu'ils n'ont pas publiée eux-mêmes, c'est qu'il y avait aussi des références à d'autres répertoires d'autres régions. Et notamment les chansons en français qu'on retrouve. Et ils ont voulu montrer qu'en fait, les chansons traditionnelles, populaires, voyagent, se déforment, changent de langue, mais c'est toujours la même.
Quoi. Et la tradition, voilà. Ça n'est jamais quelque chose de figé.
Exactement, voilà. Donc voilà, c'est une grande richesse qui intéresse aussi bien les gens du Périgord, mais d'autres régions d'Occitanie, mais au-delà de l'Occitanie, des régions francophones, on va dire, qui retrouveront dans ces chansons. J'en chanterai une tout à l'heure, là, où il y a une version en français qui est connue, mais moi, je ne la connaissais pas du tout en occitan, quoi. Voilà, et comme la mélodie me plaisait beaucoup, voilà, je vous la chanterai tout à l'heure.
Alors pourquoi les éditeurs de son nouvel hume, Yeo du Périgord et Le Bourgnin du Périgord? Parce que c'est Le Bourgnin en 1902 qui a fait la première édition.
Alors soyons précis, Jean-Claude.
Oui.
Si je peux me permettre. En 1902, ils ont publié leur première édition avec des souscripteurs. D'accord? En 1903, ils ont réédité la même chose avec d'autres souscripteurs. Mais c'était des souscripteurs. Hein. C'est eux qui ont donné l'argent pour le faire. C'est en 1981 que Le Bourgnin fait une édition parce qu'ils étaient épuisés. Et là, c'est Le Bourgnin qui a payé, effectivement, pour faire cette édition à Marseille, chez Lafitte Reprint.
Lafitte Reprint, oui.
Voilà. D'accord. Et on retrouve aujourd'hui donc Le Bourgnin et Nouvelle Hume pour cette édition. Et voilà, je suis très heureux et j'en profite pour remercier les deux associations qui ont accepté ce projet, quoi, parce que c'est faramineux, c'est un travail énorme qui, comme disait Marilyn tout à l'heure, qui fera date et j'en suis bien conscient.
Parce que c'est quand même un matériau de choix pour des ethnologues, pour des historiens, pour des sociologues. Et ça concerne tout un tas de disciplines différentes.
Oui. Parce qu'en plus des musiques, donc on a la partition, on a le texte en occitan, on a la traduction en français, mais on a aussi toutes des petites annotations, des commentaires qu'ils ont réalisés eux-mêmes en disant, ben voilà, on faisait ça comme ça en ce coin, cette tradition, elle vient de là, dans tel coin, on faisait ça, on jouait au rampo sous la halle de Montferrand du Périgord, tous les dimanches avant Vêpres ou après Vêpres. Voilà, on a plein de données qui nous racontent l'histoire du Périgord de cette époque-là. Et ça, c'est assez touchant et enrichissant à la fois, quoi.
Ça rend tout terriblement vivant.
Exactement, voilà.
Alors, tu nous as mis l'eau à la bouche, donc, puisque ce sont des chansons.
Eh bien, je vais chanter.
Voilà.
Alors, j'ai choisi pour commencer, en fait, un chant de Bouvier. Alors, les chants de Bouvier, souvent, ce sont des onomatopées. Il n'y a pas de texte. Celle-ci, il y a une phrase, voilà. « Rai Shulei, Faitej et l'Olune ». Voilà, c'était fait, en fait, pour chanter à l'aube, pour se donner du courage. C'est aussi un chant qui fait le lien avec l'animal, parce qu'il travaillait avec soit des vaches, des bœufs, etc. Donc la solitude, on va dire, du bouvier avec la nature qui s'éveille, etc., et ses animaux. Et j'ai une pensée particulière pour mon père, qui a été vigneron, paysan vigneron, qui a travaillé toute sa vie, jusqu'en 75, avec des vaches. Voilà, j'ai toujours, moi, vécu gamin derrière mon père et ses vaches. Je ne l'ai jamais entendu chanter, parce qu'il ne chantait pas bien, disait-il. Mais bref, voilà, donc chaque fois que je chante ça, je pense à lui. Alors, je vais chanter celle-ci, c'est court. Hein. Je vais juste un peu improviser, parce que je me plais à penser que ces gens-là, une fois qu'ils avaient chanté la phrase, ils devaient rabâcher des trucs avec des onomatopées, etc., ce que je vais faire à ma manière. Et après, je vais enchaîner avec un air sifflé par les cultivateurs. Alors, comme je ne siffle pas très bien, j'ai amené mon fifre et je vais vous le siffler au fifre. Voilà. Alors, Kokomen Shentao. Rai Shulei Faiteje Loluno Rai Shulei Ebufolu Sholei Rai Shulei Faiteje Loluno Rai Shulei Ebufolu Sholei Thank you. Merci.
Bravo. Ouais, c'est très émouvant parce que c'est, ça renvoie à une époque qu'on n'a pas connue, mais que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, pour nous, enfin, moi qui suis de la campagne, toi aussi, peut-être beaucoup de personnes qui nous écoutent ont des racines rurales. Et inévitablement, je pense que ces gens-là, ils ont dû ou chanter, ou entendre chanter, ou danser dessus. Ou... Voilà, je pense que c'est très émouvant. Et on est, faut reconnaître qu'on est bien fiers d'avoir remis ça au goût du jour. Et je trouve ça magnifique. Merci.
Merci.
C'est d'autant plus rare que quand on voit des... Bon, tu parlais de circulation tout à l'heure des chansons, des airs. Sylvain, il y a quelques années, je me souviens, j'avais trouvé, peut-être tu connais cette chanson « Bouteille sur bouteille ». Et cette chanson, elle a été chantée par les frères Savoy aux États-Unis, et on la trouve dans un western. Mais ben vraiment, il m'a fallu des semaines pour trouver ça. Et donc, petit à petit, ces circulations, elles disparaissent et elles deviennent complètement invisibles. À nos yeux, à nos oreilles, on n'imagine pas l'origine parfois des airs qu'on chante et comment c'est parti loin, en fait. Alors quelquefois, c'est un hasard, on tombe là-dessus, on s'émerveille, mais on n'en a pas le témoignage vivant au jour le jour. C'est complètement à notre insu. Et là, avec le Cassé Chaminade, on va pouvoir un peu plus suivre à la trace et voir à quel point c'est vivant, y compris dans nos vies de tous les jours aujourd'hui, parce que dans la variété, par exemple, il y a beaucoup de mélodies qui sont issues de ces chansons traditionnelles.
C'est la chanson populaire, hein, c'est la musique populaire. Ce sont toutes ces transformations, ces variétés, ces variations qui ont donné la richesse. Je dis toujours que quand je faisais du collectage, si les anciens qu'on a rencontrés et collectés avaient joué que les choses... qu'on leur avait transmis, eux, on n'aurait rien eu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque génération, ils ont apporté des choses nouvelles. Donc la tradition, c'est vraiment une chaîne sans fin où chacun doit rajouter son maillon, quoi. Et c'est pas, ça ne s'arrête pas, tu disais, ce n'est pas figé, effectivement. Ça ne s'arrête pas dans le temps. On peut l'identifier dans le temps. Dans le Cassé Chaminade, par exemple, quand on entend certaines mélodies, on peut... Oula, ça, c'est des modes. D'ailleurs, ils le marquent même. Mode phrygien, mode machin, ça remonte au Moyen-Âge, etc. Parce que c'était des très bons musiciens, c'était des compositeurs, c'était des ethnomusicologues, ils savaient de quoi ils parlaient. Donc on a un cheminement aussi historique, musicologique, et pourtant souvent c'est des choses qui paraissent simples. Tout à l'heure je vais chanter un chant de moisson. La plupart des chants de moisson sont faits sur 5 notes. Mais par contre, l'émotion, comme tu disais, Jean-Claude, elle est palpable, quoi. Ça raconte une histoire, ça raconte une émotion, ça raconte leur histoire à eux. Souvent, c'est des histoires qui ne sont pas forcément gaies. Voilà, mais c'est ça, quoi. Donc, on n'est pas figé dans le temps. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, j'encourage tous les musiciens, quel que soit le style de musique, à s'emparer du nouveau Cassé Chaminade pour en faire... ce qu'ils veulent, quoi. Voilà, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, je le chante a cappella. La dernière fois où je suis passé à la radio, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour certains qui étaient à l'écoute, mais j'ai monté un trio avec mes deux fils, où c'est la musique électro qui m'accompagne, et ce sont des thèmes du Cassé Chaminade. Donc tout est possible, ça peut être un quatuor à cordes, ça peut être une vie à la roue, ça peut être ce que vous voulez. N'ayez aucune limite. Voilà.
Et d'autant plus que là, tu soulignais la qualité de musicien des abbés Cassé Chaminade, parce que quelquefois, certains collectages ont complètement aplati des musiques, transformé du 6-8 en 2-4, par exemple, donc aplati complètement le rythme, abîmé la modalité de ces airs, ce qui fait que quand on les écoute, on a l'impression d'un truc un peu ridicule, très pauvre, alors que c'était d'une grande richesse. Il faut profiter de ça.
Mais même justement pour l'histoire des modes, l'histoire des inflexions de voix, des choses comme ça un peu rugueuses, on va dire, à notre oreille peut-être aujourd'hui, eux, ils le marquent. Quelquefois, ils marquent curieuses tonalités. pour se dire, attention à votre oreille, vous allez être un peu surpris parce que ça ne finit pas comme vous l'auriez pensé.
Mais ils ne l'ont pas altéré dans leur collectage.
Ils ont tout noté, ils marquent des choses du genre, voilà, on sent que le paysan, là, prend la respiration, fait traîner la note, ce qu'on ne peut pas forcément tout noter avec l'écriture du solfège. On a des signes, beaucoup de signes, mais quelquefois on est un peu limité. Alors il faut bien rajouter dessous... étirer la note, par exemple. Il le marque. Et pareil, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les chants de Bouvier, ils marquent bien aussi attention à ne pas respecter la mesure, c'est-à-dire le rythme écrit comme ça. Prenez des libertés, comme il apprenait la liberté.
Ce que tu as fait tout
voilà.
à l'heure.
Voilà, alors après,
j'ai mis des respirations.
Je l'assouplis à ma manière, c'est mon interprétation. Et eux, ils l'avaient entendu, et ils le marquent. Attention, ne jouez pas comme c'est écrit parce que sinon vous allez faire un truc scolaire. Et bon, qui aura une qualité, mais c'est limité. Allez-y. Imaginez-vous, vous êtes derrière une paire de bœufs, vous êtes le matin à 5 heures, à l'aube. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être face à la nature, face à votre journée de travail? Eh bien, il faut du courage, il faut chanter avec ses tripes. Et c'est là où, évidemment, ça va bouger. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il faut le penser.
Oui, les paroles, c'est sous l'aile...
Arraille sous l'aile, faitège la lune, fait taire la lune, c'est le jour qui se lève.
Voilà, ça veut dire
et arraille sous l'aile, buffo le chaleil et éteint la bougie, quoi.
Voilà, oui, la lampe à huile, oui.
Voilà.
Oui, là, c'est la nature, c'est la nature, le soleil qui se lève, donc, rayonne le soleil, lune cache-toi, voilà,
Et puis c'est un moment symboliquement très fort, le passage de la nuit au jour.
C'est ce que je voulais dire, oui. Mais c'est vrai qu'on est dans la nature parce que justement, nos anciens, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, mais ils avaient un sens de l'observation et un sens inné, quoi, de la logique. Et heureusement que, merci aux abbés d'avoir recueilli ces témoignages extraordinaires qui seraient disparus aujourd'hui.
Bien sûr.
Alors, sur la couverture, vous n'avez pas reproduit la petite charade, le petit...
Non.
La charade, elle n'est pas sur la couverture.
Mais elle est à l'intérieur.
Ça, c'est l'édition de 81. Sur l'édition de 1902,
elle est à l'intérieur.
Je pense qu'ils l'ont mis même en fin. Je crois que ça... Je ne sais plus où ils vont la mettre, après, à la mise en page. Mais elle arrive... Enfin, elle a été renommée quelque part.
Hein. Sur l'épreuve, elle ne figure pas au début.
C'est à la fin, pour montrer qu'il y a des documents là, qui vont comme des cartes postales, des choses comme ça. À fin, voilà. Il y a des partitions, des originaux.
La première version, oui.
Voilà. Ça, c'est la première page. Voilà, elle est là.
Voilà.
Voilà.
Donc pour les auditeurs,
l'abbé Casse,
l'abbé Casse et Chaminade, voilà. s'appelle pas une charade,
un
ça
rébus.
S'appelle
un rébus,
voilà, c'est merci. Rébus. C'est très visuel évidemment, et donc on voit un la sur une partition, une bécasse, une haie, un abbé, un chat, un mi et nad. Donc voilà, ça c'est
voilà, nad, il a pas
qu'ils avaient c'est des
nad, il a rien trouvé.
Ils avaient des de l'humour.
Oui.
Bon, vous voulez que je chante des Boumontim, par exemple?
Ce sera notre pause musicale, mais pas ta pause à toi.
Non, mais ça va, ça me fait plaisir. Chant de moisson. Alors, les chants de moisson, il faut quand même ne pas oublier que chez nous comme ailleurs, on moissonnait à la faucille jusqu'à la guerre de 14. Et donc là, pour se donner du rythme et du courage, il y avait ces chants. Souvent, il y en avait un qui chantait la ligne principale et le chœur reprenait. Voilà. Ça pouvait être aussi chanté au moment de la Zerbobaud, le repas qui clôt les moissons, le repas, quoi. Alors cela, c'est « Debout monti chez lèvres, la fille d'un paysan ». Debout monti chez lèvres, debout monti chez lèvres, la fille d'un paysan, la fille d'un paysan. J'ai couché ma chabille, j'ai couché ma chabille. Les prennes chouzobis blancs, les prennes chouzobis blancs. J'oumpaire l'idée mando, j'oumpaire l'idée mando. Filion voulait, Anna, filion voulait. Liana laujumpaire, Boliana laujumpaire, Beire rure, Pacha, Beire rure, Pacha. Et ainsi de suite, parce que c'est assez long, oui. On va pas moissonner jusqu'à 8 heures. Voilà.
Alors, une petite parenthèse, j'y pense là, sur Arte actuellement, il y a un cycle de 4 émissions sur le monde paysan. Christophe, tu l'as vu ?
Non, je ne l'ai pas vu, mais je note avec.
Je vous engage à le voir, c'est en replay actuellement. Mmh. Il y a 4 épisodes sur les voix de ces paysans qu'on a rarement entendues dans l'histoire et qui sont souvent les oubliés de l'historiographie, du récit des vainqueurs, de leur. Et il y a en particulier, par exemple, tout un passage sur les Mondines qui travaillaient dans les rizières au nord de l'Italie et qui avaient des champs comme ça. Et on voit aussi le geste du faucheur à la faucille. Comment, par exemple, la faux est venue détrôner la faucille parce que ça permet de le faire plus vite, etc., pour le propriétaire, en cassant le rythme traditionnel. C'est très intéressant, je vous engage à aller le voir. Je pense que ça va rester encore un petit moment en ligne. Allez le voir, c'est à la lumière de ce que tu nous dis, peut-être c'est intéressant de les voir après, avec ces chants-là.
Il y a des chants de moisson, mais il y a aussi des chants de fenaison.
Oui.
On peut penser que le champ de moisson, c'était pour l'homme à la four, c'est lui qui coupait le blé. Et les champs de fenaison, c'est les dames qui faisaient, qui rentraient le foin.
Quand dans les champs de fenaison, quand on y a une pra d'alia, c'est le pré à faucher.
Ah oui, oui, oui. Oui.
Donc ça peut. Je ne sais pas si ça devait arriver qu'une femme fauche. Mais c'est
assez masculin,
c'est,
comme.
C'est assez,
oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les femmes, elles fanent.
Donc, alors après,
il y a des chants de fenaison.
Oui, une fois que le foin est coupé, c'est pas fini. Moi, je me rappelle ma mère, parce qu'on avait donc des prés pour les vaches, elle est débordée. Il fallait enlever le foin qui était près du bord pour que quand mon père passe après avec la faneuse.
La faucheuse, oui.
La faneuse. Une fois que c'était coupé, pour pouvoir accéder facilement contre la clôture.
Mais moi, je parle de faner à la main. Parce qu'il y avait. On fauchait à la main et on fanait aussi. Les femmes, elles avaient la fourche, elles fanaient.
Elle le retournait avant que la machine arrive, oui.
Avant que la machine arrive,
oui.
Parce que là, on est bien avant que la machine arrive.
Oui.
Alors là, ce qui est intéressant, justement, je reviens sur cette émission, c'est que ça fait vraiment la distinction entre toute une civilisation avec des outils très légers, utilisables par tous, et puis ensuite la mécanisation. Qui va complètement changer cette civilisation en supprimant les communs, les propriétaires s'approprient les communs, par exemple, et à partir de ce moment-là, tous les outils changent. Et donc, les champs disparaissent aussi. Tous les champs dont tu parlais, ils disparaissent. Et donc, c'est tout un changement d'habitude, de coutume, qui touche jusqu'au moindre geste de la vie quotidienne. Et là, dans votre discussion à tous les deux, on l'entend, ça. Ce changement, ça se télescope complètement.
Oui. On l'a pas. Alors, il y a justement l'expression en occitan, on dit champ de moisson, c'était quand sous des médos, quand sous des segazous.
Quand sous segaire.
Quand sous segaire, voilà. Donc, on a. Dans le livre, dans le collectage des abeilles, on a. Toutes les variantes de dialectes, de sous-dialectes, de sous-sous-dialectes, parce que faut savoir que là, on est au 19e, peut-être même avant, au 19e, début début 20e, mais plutôt au 19e. Et donc, encore une fois, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Donc, on parle comme parlaient les anciens. Comme parlaient d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on a, on a par exemple une chanson. Il y a 13 variantes en Périgord. La même chanson, il y a 13 variantes. Et toi qui es musicien, ce sont vraiment des variantes.
Il n'y a pas que le texte qui change.
Il y a le texte.
Il y a la mélodie. Alors, quelquefois, c'est infime, mais souvent, c'est une autre mélodie, mais c'est la même thématique.
Voilà. Et alors, les abeilles le précisent, ils disent version 2. Version de Manoury, version de Lalande, version de... Mmh. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que, bon, version de Marnac, bon, il faut... on est beaucoup, puisque le curé d'un prêtre était de Manoury.
Alors l'abbé Casse était de Manoury.
Et Manoury
et Chaminade, il a été à Sainte-Croix de Beaumont, et voilà. Après il a fini directeur de la maîtrise à la cathédrale Saint-François à Périgueux. Mais c'est vrai que leur collectage en majorité se situe, on va dire, dans le sud du Périgord.
Voilà, en sud-occitan, voilà. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu les dialectes, donc il y a beaucoup de chansons qui sont... Je dis ça, puisque c'est comme c'est moi qui l'ai mis en graphie normée, c'est plutôt, on va dire, le dialecte du Périgord noir qui est dans ces chansons-là. Mais bon, ça n'empêche qu'on peut très bien les chanter aussi.
Et alors, pour répondre à une curiosité personnelle, est-ce que quelquefois certaines versions musicalement sont différentes à cause du dialecte, à cause de la prosodie de la phrase? Ou est-ce que ça, finalement, c'est pas tellement prégnant?
On a l'impression qu'ils ont plutôt adapté les paroles à la musique, non?
Ça, c'est compliqué à
dire. Je sais pas.
Ouais, ça, c'est compliqué. Qu'est de l'œuf ou de la poule, là? Je sais pas trop. Moi, je crois qu'après, selon... c'est tout simple, on va dire, à la fois simple et compliqué, mais imaginons un paysan qui se trouve à Marnac, là, près de Saint-Cyprien. Il chante comme ça. Quelqu'un vient travailler chez lui, mais il habite à quelques encablures, à Siorac. Il va l'entendre, et cette chanson, ça lui plaît. Il revient chez lui à Siorac, il ne se rappelle pas de la moitié des trucs. Il va modifier, il va combler les trous.
Voilà.
Et puis ça va donner la version de Siorac. Et il ne faut pas aller chercher plus loin.
Oui.
Voilà.
Et Françoise, d'ailleurs, Françoise du Dognon, qui a fait dans la partie, qui a traduit en français, elle explique très bien en disant, parce qu'elle est de la Coquille, donc elle est tout à fait dans le nord du Périgord, et elle nous dit qu'elle a un grand-oncle, un vieil oncle, il savait... Bon, il n'était pas trop... Il n'était pas illettré, mais enfin... On ne sait pas trop la
langue, quoi, l'écriture.
Voilà. Et donc, il improvisait. Et par exemple, il chantait « Auprès de ma blonde » en français. « Auprès de ma blonde ». Et puis, comme il ne connaissait pas les paroles, il ne se rappelait plus, et bien, il a rajouté « lui ». Et alors, voilà, je pense que ça correspond tout à fait à ce que tu dis. C'est
Et il a rajouté en occitan. Il mélangeait le français et l'occitan.
Oui,
qui fait qu'on a des chansons effectivement qui sont matinées d'occitan et de français, parce que il manquait des bouts, il savait pas le dire ou il s'en rappelait plus, ou des francismes, voilà, et qu'on a gardé d'ailleurs, hein, parce que tu aurais pu tout remettre, c'est marqué en italique pour que les gens sachent que là, c'est pas un mot vraiment occitan, mais un francisme qui est inclus dans le texte.
Ah oui.
Donc c'est bien un instantané, finalement.
Ah, exactement.
Figé là, comme ça, dans le...
On s'est mis au plus près, mais vraiment au plus près de tel que les...
Tel qu'ils ont collecté
le
la source.
Des collectages des abbés. On n'a surtout pas touché ni à aucun mot, ni à aucun mot. Le mot du vocabulaire, s'il est français, il est français. Comme on a mis en italique, comme a dit Sylvain, parce que effectivement, les puristes vont nous dire oui, mais c'est pas un mot occitan, ça. Ben non, mais c'est comme ça. C'est, on appelle ça une cheville, je crois, quand on met ça dans des poètes, quand ils ont un problème pour trouver un mot pour faire les alexandrins, ils improvisent, ils mettaient quelque chose qui. Eux, ils faisaient pareil. Mais je crois que pour revenir à la musique, c'est excellent. Je veux dire que toi, musicien, tu as pris beaucoup de plaisir à travailler sur ces partitions.
Je connaissais le 1902, mais pas celui-là, le nouveau qui devait sortir à cette époque-là, après la guerre. Le fait de rentrer note à note dans mon logiciel, après j'ai réécouté les fichiers sons, mais j'ai dit, ça, il faut que je le chante, ça, il faut que je le joue. Donc il y a 415 chansons, je crois.
Tu as du travail pour les 20 prochaines années, là.
Voilà, au moins 20 ans. J'en ai choisi peut-être 300, des mélodies qui me tenaient à cœur. Et j'espère que ce sera de même pour d'autres musiciens. Après, ça, chacun sa sensibilité, on est libre devant la mélodie, devant l'émotion de la mélodie.
On va t'écouter.
Je vais jouer la mélodie de Darrel ou Castel des Monviel, qui a été collectée du côté de Carlu, Gros-les-Jacques. Voilà, d'Arrel ou Castel des Montbiel, ils cantavent à leur belle, ils chantaient la belle. C'est encore une histoire de fils du roi. Et puis voilà, c'est souvent le
et
cas.
De filles séduites.
Voilà, et pourquoi vous voulez aller l'écouter? Ben, parce que c'est, ça l'attire, le chant. Sauf que l'autre lui dit, c'est pas à peine d'y aller parce que c'est qu'une bergère. Et lui, il dit, que ce soit une bergère ou un berger, j'irai l'écouter, quoi. Donc, quelqu'un qui avait l'oreille. Voilà, d'Arrel ou Castel des Montbiel.
Château de Montbiel qui existe, bien sûr.
Et oui.
Dans la réalité.
Et là, on présente quatre versions différentes.
Oui, mais surtout, il y en a davantage.
Alors, dans le j'ai plus en tête, parce que ça fait beaucoup de choses, mais il y en a peut-être une de plus. Peut-être une ou deux de plus, je ne sais plus. Mais oui, là, il y en a quatre. Celle que j'ai jouée, elle existait dans la version de 1902. Oui.
Donc là, près de la Genêt, il y a la version de Capdraud, une version à la Linde, et puis Puy-Guillen. Quel Puy-Guillen? Celui entre...
Oui, je pense.
Près de Bergerac.
De Sigoulès.
Ouais, de Sigoulès, quoi.
Ah oui.
Oui.
D'accord.
Oui. Et là, par contre, je n'ai plus la mémoire, mais il y a des... Je crois qu'il y en a en 3-8, il y en a en 6-8 ou en 2-4.
Enfin, ah oui, il y en a une en 6-8 et il y en a 3 en 3-8.
Voilà, donc et celle que j'ai jouée, c'est laquelle du coup? C'est celle de ce Carlu, elle y est. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis au même endroit? Parce que celle-ci figurait complètement à part dans le livre.
Et c'est la version, c'est la réédition des années 80, ça.
Oui, moi j'avais souhaité justement... Les remettre ensemble.
Je vois pas Carlu.
Mais je pense qu'ils ont dû refaire pareil. Elle doit être au fin fond là.
Ah oui.
Je sais pas pourquoi. Quelquefois, on se demande soit ils ont fait parce que nous, ça nous est arrivé aussi quand on a monté ce livre. Arrivé à un moment donné, oulala, et celle-là, on l'a oubliée. Où c'est qu'on va la mettre? Il faut en faire un renvoi. Il faut tout renuméroter. C'est compliqué de faire un livre avec une chronologie.
Et encore, vous avez l'informatique.
Oui.
Eux ne l'avaient pas.
Ne l'avaient pas, non. Alors, les copier-coller, ils ne connaissaient pas. Il fallait tout refaire. Donc, je pense que des fois, ils ont dû dire à l'imprimeur, elle restera là, au numéro 74, elle ne bougera pas.
Mmh. Oui, voilà. Pour la petite histoire, c'est vrai qu'on se réunissait donc, toutes les semaines, un grand moment, on se réunissait chez l'un ou chez l'autre, bien souvent chez Françoise, parce que...
Il nous a fait des petits plats magnifiques.
Voilà.
Et donc... J'étais en train de me dire que si c'était chez Françoise, probablement qu'il y avait des avantages secondaires très notables.
De 9h du matin à midi et de 14h à 17h.
Voire 18h.
Voire 18h. Et on travaillait là. On travaillait.
Ah oui, ça a été...
Si, il faut nous croire quand on travaillait.
Non, ça a été très très difficile. Il y a eu des passages... Honnêtement, on avait la tête qui explosait. Quoi. Parce que c'était ce manuscrit-là de 1918, ou après la guerre, là, c'est un puzzle. Il y a des choses, il faut. Parce qu'ils avaient fait des renvois au crayon. Il fallait revenir en arrière. Il fallait remettre tout en ordre. Des fois, il y avait un bout de chanson là. Et puis, trois pages après, il y avait la fin de celle-là. Ah non, mais ça. Voilà. Puis rentrer des partitions de musique, ils écrivaient bien, mais quand même, c'était des pattes de mouche. Moi, j'avais les yeux qui explosaient à la fin, quoi.
Alors là, Jean-Claude ouvre la page de l'épreuve qu'il nous a apportée, là, et il y a effectivement un fac-similé. Voilà. Et félicitations à vous pour le déchiffrage de.
Vive le pastoral.
Alors, non seulement dans une orthographe mistralienne.
Phonétique.
Phonétique, ouais. Voilà, forcément approximative. Heureusement que le dialecte est assez homogène,
oui.
Finalement.
Ah, oui,
parce
oui,
que,
oui.
Bon,
oui, oui.
Avec des pages pliées, un peu abîmées, un peu déchirées sur les bords parfois. Et puis, voilà, il y avait des notes, des parenthèses, des. Voilà.
Alors, il y a une page où Sylvain dit d'ailleurs que. Je crois que c'est les curés, donc les prêtres, ils écrivaient la partition parce que. En entendant la chanson.
Ah ben oui, oui, là, il n'y avait
oui,
pas
c'est
de.
C'est comme une dictée, quoi.
Si parce que là, il n'avait pas d'enregistreur. À l'époque, il y avait déjà des gramophones, des sur cylindre, en cire. Il pouvait faire ça, ça existait déjà, hein, fin
19e. Ils auraient demandé sans
Bartok,
doute des moyens considérables.
Ben oui, oui.
Tandis
oui.
que là, on prend à la volée, on entend une fois, deux fois à la rigueur, et il faut noter
il
direct.
Il faut noter comme ça, c'est une dictée musicale.
Ce qui prouve quand même la
Ah ben, l'oreille qu'ils avaient. Alors, est-ce qu'ils avaient l'oreille absolue, je ne sais pas, pour retrouver la tonalité. On peut imaginer que soit ils l'avaient, c'est-à-dire qu'un musicien qui a l'oreille absolue, si je lui fais pop, il sait exactement la note. Moi, je ne sais pas. Parce que la note que j'ai faite là, je peux la refaire, mais je ne sais pas quel nom lui donner. Il va me falloir un repère avec un instrument. Soit il pouvait amener aussi ce paysan ou le meunier, n'importe, à l'église, il y a un harmonium à cette époque-là. Mmh. Toutes les églises ont un harmonium. Et là, ils écoutent le chanteur et ils savent qu'il est en mode de la, mode de sol, etc. Quoi.
Ou bien alors, par intervalle, on transpose comme ça.
Oui, il devait y avoir des diapasons aussi. On tape la note, on a le la et on a la note relative. Ça, pour des musiciens de ce talent-là, c'est rien à faire, on va dire. Mm. Moi, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas très fort là-dedans. On me chante un truc, je vais le jouer. Mais voilà, mais trouver après, il me faut un certain temps, quoi. Voilà.
C'est un véritable entraînement, en fait. Ils ont passé leur vie à le faire.
Oui, oui, complètement, oui, oui.
On peut supposer qu'au bout de quelques années, ils étaient tout à fait entraînés à faire ça sans réfléchir.
On peut le penser, ils ont consacré leur vie, au moins une grande partie de leur vie, à faire ça, oui.
Ah, mais c'est sûr. Oui, 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 c'est une œuvre de toute une vie, jusqu'au bout...
Et alors, on trouve dans les chansons, on trouve souvent aussi d'autres prêtres, d'autres personnes.
Oui, oui, oui.
Et des gens aussi, comme aujourd'hui, qu'on sait être de qualité.
Exactement. Il y a donc l'abbé Cyprien Boyer,
oui.
Qui lui est né à Saint-Martial de Nabira, qui lui les a aidés aussi pour des harmonisations, qui a fait aussi du collectage du côté de Saint-Martial. Donc Saint-Martial de Nabira, c'est près de Gourdon, on t'approche du Lot, là-bas. Voilà, il y a le neveu de Cyprien Boyer, Louis Boyer, qui était aussi abbé, musicien et professeur au petit séminaire. Ces gens-là aussi les ont pratiqués. Lui, il était plus jeune, donc on ne trouve pas d'harmonisation de Louis Boyer. Par contre, on a quelqu'un d'éminent, qui était un ami à ces deux abbés, qui est Fernand de la Tombelle, compositeur émérite, qui a fait partie des musiciens qui ont créé la Schola Cantorum à Paris en 1894 et qui a fini sa vie au château de Ferrac, Castelnau-la-Chapelle. Donc lui, il a fait des harmonisations, etc. Et puis, alors on a Cécile Chaminade, qui était une lointaine cousine de l'abbé Chaminade, qui a juste modestement fait une harmonisation. Je pense que c'était juste symbolique. Voilà. C'est par ce lien de parenté un peu éloigné, mais elle figure là. Et Cécile Chaminade, c'est une grande compositrice du 19e siècle. Quoi. Voilà, on a à peu près fait le tour de l'équipe de l'époque. Quoi. On a parlé tout à l'heure d'Emmanuel Garot, donc, qui était né en 1833 à Villamblard,
oui.
Et donc qui était un chanteur émérite, parce que les deux abbés, on dit dans ce livre, il s'est écrit qu'il avait un répertoire de 500 chansons à peu près en tête. Donc voilà, et il allait voir les gens parce qu'il a été aussi un peu collecteur pour les apprendre, et il a été collecté, l'arroseur arrosé. Et cette chanson-là, C'est Sylvain Trébuc. Alors, Sylvain Trébuc fait partie de tous ces collecteurs fin 19e, comme Arnaudin, comme Solleville dans le Quercy, comme Achille Millien dans le Morvan, etc., etc. Et qui ont, alors lui, Sylvain Trébuc, c'est la Vendée, il passe par la de Périgord, les Landes, le Gers, jusqu'aux Pyrénées. Et donc, quand il collecte Emmanuel Garot, il est sur Bordeaux. Donc, il a dû finir sa vie à Bordeaux. Je ne sais pas, je ne connais pas les raisons. Mais il était de Villamblard et il avait, voilà, il était connu là. Donc, cette chanson, Aïville ou Bé de la Paloum, c'est une chanson énumérative. Aïville ou Bé de la Paloum, Aïville ou Zouel de la Paloum, Aïville ou Lol de la Paloum, la Paut, l'Alpiou, l'Ocuyo, etc. Et c'est une chanson. Alors, il faut que je dise un mot de Jean Blanchard. Jean Blanchard, qui est un grand musicien traditionnel qui fait partie, qui faisait, parce qu'il est décédé il y a quelques mois, qui faisait partie des musiciens qui ont lancé le mouvement folk.
La bamboche.
Voilà, tout ça, c'est le Grand Rouge, la bamboche, etc., qui ont fait un travail énorme de collectage. Et quand il est décédé il y a quelques mois, c'était un peu avant Noël, je pense, le temps passe vite, ils ont diffusé... Sur Internet, la Palom, la chanson La Palom, qu'il affectionnait vraiment particulièrement, qu'il chantait en français avec Evelyne Girardon. Quand j'ai écouté cette chanson, que je ne connaissais pas en français, de suite, j'ai appris l'air. En français. Elle m'est rentrée dans la tête, j'ai pris mon fifre et tout, j'ai travaillé, etc. Et quelques mois après, on arrive dans le livre de Cassé-Chaminade et je tombe... sur le manuscrit, Aïville ou Bé de la Palom, c'est la même mélodie. Exactement, note pour note, sauf que tout le texte est en occitan. Donc j'ai écrit tout de suite à Evelyne Girardon pour lui dire que j'avais trouvé la version occitane de ce que chantait Jean Blanchard. Elle m'a dit, bon, c'est dommage, on va lui dire, on va lui chanter pour lui, mais voilà, il est parti un peu tôt avant de le voir lui-même. Et donc voilà, j'ai une pensée pour Jean Blanchard, qui était un copain, un grand musicien.
Alors sur Wikipédia, vous avez un article sur Jean Blanchard avec une très belle photo de lui. Je l'ai perdue, mais elle est magnifique. Si vous cherchez Jean Blanchard, musicien, donc il est né le 19 septembre 1948 et il est décédé le 28 octobre 2025 à l'âge de 77 ans.
Voilà.
Il jouait de la cornemuse, l'accordéon et du violon.
Ouais, et il chantait très bien aussi.
Et il a été décoré de l'Ordre national du mérite en 2010.
Il le méritait.
Voilà. Il jouait aussi du banjo.
Voilà, accessoirement, voilà. Oui. Alors, Aïville ou Bé de la Paloum. Aïville ou Bé de la Paloum, Aïville ou Bé de la Paloum, déchu le bord de la grand-mère, Aïville la Paloum qu'est-elle, Aïville ou Zouel de la Paloum, Aïville ou Zouel de la Paloum. Déchu le bord de la grand-mère, Aïville ou Zouel de la Paloum, Aïville ou Cambo de la Paloum, Aïville ou Cambo de la Paloum. Déchu le bord de la grand-mère, Aïville la Paloum qu'est-elle.
Et là, bon, effectivement, voilà. les chansons énumératives, par définition, elles sont toujours très très longues.
Voilà, et surtout qu'on passe en revue toute la Paloum. Et ce qui est important, c'est de retenir la mélodie, qui est une très belle mélodie.
Et alors, dans quelle chanson c'est, parce que
ça, c'est dans le nouveau Cassé-Chaminade. Elle n'y était pas dans le premier.
Ah, tu crois?
Ah oui, ça c'est sûr. Dans le premier, il y a une version qui part de la Paloum.
Oui.
Une chanson aussi énumérative, mais alors l'air est pas du tout le même. Je le chante avec mes enfants d'ailleurs. Entre l'oribiero et l'homme, entre l'oribiero et l'homme, ai bilo be de lo palumo, ai bilo be de lo palumo. Ouais, c'est pas du tout la même mélodie. Mais par contre, on va énumérer les parties de la palombe. La tête, les yeux...
Les paroles sont presque pareilles.
Quasiment.
La première la version que tu as chantée est tellement plus riche mélodiquement, elle est pleine d'émotions.
Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Bon, l'autre, évidemment, me fait penser à Jean. Alors, c'est aussi ça, la musique. C'est oui. Les émotions qu'on y met, les souvenirs qui se rajoutent. Voilà, c'est compliqué, la musique. Ça se loge dans un endroit où c'est bien de ne pas savoir comment ça marche. Ce qui se passe, voilà, c'est est-ce qu'on est ému, est-ce que ça nous fait quelque chose. Et voilà, c'est pour ça que je dis que chaque musicienne doit s'emparer de ce livre et le faire à sa manière. Voilà, c'est ce qui se rendra vivant, ce patrimoine musical qui est d'une grande richesse, encore une fois.
On va dire deux mots de Françoise, puisqu'elle n'est pas là, on va parler pour elle, ce qui n'est peut-être pas... voilà, donc Françoise Dudognon a fait la traduction en français qui n'existait pas dans les versions, que ce soit la première version ou la deuxième. Et voilà, donc je crois qu'elle a fait un sacré travail, parce que toute langue peut être traduite, il n'y a pas de problème. Mais il y a des fois des tournures, il y a des richesses de vocabulaire, de syntaxe, qui sont difficiles à rendre. Et voilà. Et donc, François, je pense que ça en est très bien sorti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a beaucoup, beaucoup parlé et beaucoup échangé avec Jean-Louis Lévesque, donc, qui était celui qui a mis, le livre en page. Et ce qui veut dire, c'est qu'en fait, on a tous travaillé, mais chacun n'a pas travaillé pour soi, uniquement pour soi, la tête baissée. Non, on était vraiment en équipe et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Et je crois que c'est toi qui en as eu le plus, d'ailleurs, parce que les partitions, bon, c'est pas facile, peut-être.
Non, je crois que chacun a fait un travail énorme. Ça, il faut être vraiment clair là-dessus. Et selon le moment du livre... Il a fallu plus travailler avec l'un, avec l'autre. Il fallait trouver son partenaire pour arriver à avancer et faire au mieux cette œuvre. Moi, j'emploierais le mot d'œuvre parce que vraiment, c'est monumental, ce travail-là. Et voilà, donc chacun dans son domaine a essayé de donner le meilleur de lui-même pour être vraiment pinaillé, à aller chercher la quintessence de la chose pour que ça fasse un livre de référence, ça c'est sûr.
C'est vrai que les gens qui sont à l'origine du projet, ils nous ont quand même bien managé, ils nous ont bien, comme on ne dit pas en occitan, ils nous ont bien tenus au chaud pour que chacun dans sa partie, on fasse notre boulot. Et je crois que le résultat devrait être très agréable, oui.
Certainement que si vous aviez été isolé, vous vous seriez découragé, peut-être. Ah, c'est énorme.
Ça, c'est sûr.
Oui. Oui.
Parce que même quand on se voyait donc régulièrement chez l'un, chez l'autre, après on échangeait beaucoup de mails, mais il y a eu des phases de découragement ou de tension, quoi. Même des fois entre nous, parce qu'avec la fatigue étant là, les points de vue divergents, il faut aussi après faire des compromis sur la langue, sur des choses comme ça, sur des traductions.
Ne pas en faire une affaire personnelle,
exactement,
rester dans
dépasser,
le fil du projet.
Et aller vers l'intérêt public, on va dire, mais c'est difficile parce qu'on est tous des êtres humains. Donc voilà, on a passé 3 ans, ça a été une vraie aventure. Avec de très bons moments, évidemment. Les moments de repas, on a réussi à se détendre pour retravailler d'arrache-pied.
Sylvain portait toujours la bouteille qui va bien.
Oui,
toujours.
Mais tout le monde, Daniel, ta femme, elle a fait des entrées magnifiques. Françoise, voilà, Philippe, chacun, c'était, chacun sa pierre à l'édifice dans l'ouvrage, mais dans les moments de détente aussi, qui fait que on a tenu le coup pendant 3 ans. Et on va aller au bout, là, puisque c'est la ligne droite.
Ah oui.
Voilà, qu'on va bientôt pouvoir toucher du doigt cet ouvrage magnifique.
Alors, c'est la rentrée. Les ateliers vont redémarrer. Le tien redémarre quand, Jean-Claude?
Ah, moi, je démarre début octobre.
Début octobre.
Oui, comme autrefois. La rentrée, c'était octobre.
Alors, à Bergerac?
Alors, à Bergerac...
À Saint-Laurent-des-Hommes aussi?
Non, à Saint-Laurent-des-Hommes, j'ai arrêté.
Tu as arrêté?
Ah oui, parce que c'est loin, et puis il n'y avait plus beaucoup de personnes.
Alors, il faut dire quand même que, pour le public, que Jean-Claude a sillonné la Dordogne quand même pendant des années pour aller donner des cours. Il fait des kilomètres et des kilomètres. Et donc là, tu es devenu un peu plus raisonnable.
Voilà. Voilà. Donc lundi matin, 10h30 midi, au Cantou, pour Bergeron Accueil, pour l'association Bergeron Accueil. Et le mercredi après-midi, 14h30, 16h, pour l'union familiale bergeracoise. Ça se passait sous la bibliothèque de Bergerac, sous la médiathèque. Mmh. À l'ancien, il y avait une banque autrefois. Voilà, donc ce ne sont pas des cours, hein, c'est des on appelle ça un atelier parce qu'on lit des textes.
Ce n'est pas un cours magistral.
On ne chante pas des chansons encore, parce que peut-être que si Sylvien
viendra
nous faire une récréation.
Alors voilà. Il y a aussi un atelier à Montbazillac, mais je ne connais pas les jours et les heures, mais je suppose qu'il doit être assez facile de retrouver. Il y a un répertoire de tous les cours de Dordogne.
Sur le site de Novellum, justement.
Sur le site de Novellum, qui est mis, ce répertoire est quand même remis à jour quasiment tous les ans.
Je crois qu'il y a une quarantaine d'ateliers d'Occitan en Périgord.
Oui, c'est quand même assez dense. Et puis l'atelier de Port-Sainte-Foy et Ponchat, qui démarre mercredi prochain, 16 septembre, qui a lieu tous les 15 jours à 20h30 à la salle du Bois Doré, devant la RPA du Bois Doré. Que vous dire d'autre que c'est sympathique. On est une dizaine, c'est bien sympa. Quelquefois, on mange et on boit ensemble, en plus. On a eu une journée très, très chouette le 17 juin à Port-Sainte-Foy. C'était notre première, journée portes ouvertes avec un atelier de danse, des chants, un atelier impromptu de chants aussi. Voilà, donc à refaire. Et donc, on vous accueille tous les 15 jours. Et surtout, il faut le dire, quel que soit votre niveau. Un grand débutant peut parfaitement s'intégrer dans l'atelier tout au long de l'année, quelle que soit la date à laquelle il arrive, parce qu'on va consacrer le début de l'atelier à l'apprentissage, à l'initiation, et puis ensuite, ça fait des révisions pour les autres. Et comme ça, on est tout un groupe autour des personnes qui arrivent.
Donc en juin 2027, tu pourras mettre des chansons du Casse et Chaminade.
Eh bien, perquez pas.
Voilà. Je crois qu'il y a aussi un atelier à la Force.
Il y a un atelier à la Force.
C'est Jean-Pierre Bataille qui l'anime.
Atelier qui a. Alors, je ne sais pas si c'est directement dépendant de l'atelier, mais Jean-Pierre vient de commencer une nouvelle chorale, un nouveau groupe de chants.
Ah oui.
Et une fédération de chants en occitan est en train de voir le jour.
Ah, bien. Ah ben voilà.
Voilà.
Eh ben, il y a matière.
Oui, il y a matière. Mais on attend impatiemment le livre pour aller y puiser. L'avantage, c'est qu'il y a une homogénéité de dialecte là, dans laquelle on se retrouve. Mmh. Parce que si on chante en béarnais, on est obligé de le chanter en béarnais, parce que souvent la prosodie n'est pas la même et ça ne colle pas sur la mélodie. Pareil, si on chante en limousin, on n'a pas les mêmes intonations, pas le même accent. Il y a des inversions de consonnes sur certains mots. Et donc, c'est quand même drôlement chouette d'avoir tout un répertoire à portée de la main, là, dont on sait d'où il vient et qui est homogène.
Sur ces belles paroles, le mot de la fin avant de nous séparer. Alors, on rappelle le gros rendez-vous de notre invité, Sylvain Roux. Donc, c'est un événement, la sortie, évidemment.
Oui.
On rappelle la date, le lieu.
Dimanche 18.
Ah, dimanche 18 octobre.
Non, le 19, ça sera trop tard.
À Ouzaïzi, à la salle du PIP, le Pôle International de la Préhistoire.
Oui.
Ça sera en début d'après-midi, je pense, 15h, quelque chose comme ça. Voilà, où il y aura donc des musiciens. Donc l'équipe qui a travaillé, évidemment, présentera le livre. Et puis les musiciens qui ont signé des préfaces, comme Gilles de Bec de Lièvre, Jean Bonnefond, Patrick Salinier, etc., seront là pour jouer, chanter. Voilà.
Et tu peux parler de ton projet aussi de...
Ben là, ça va être trop court, je reviendrai.
Merci Sylvain Roux, merci évidemment Marie-Hélène Désert, et puis merci aussi Jean-Claude Dugros pour cette nouvelle émission sur Radio Grand Air. On se retrouve le mois prochain.
Eh bien, à Dimchat.
À Dimchat.
Allez.
Adieu.